Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capucarvi.
Bien, les cas de viol sont parfois signalés au sein des familles ou dans l'entourage immédiat, ça peut être dans la parcelle ou voilà, cela suscite généralement des réactions diverses, indignation, colère, honte et parfois des divisions. En outre, cet acte, le viol peut produire un effet dévastateur chez la personne, chez la victime. Alors comment réagir face à un viol dans son entourage? Jean Lumbala, psychologue clinicien et sexologue, est l'invité de Capucarvi.
Bonjour, Rim Kachama.
Alors, lorsqu'un viol arrive, d'abord, comment définit-on le viol?
Mais le viol, c'est un acte sexuel, ou en tout cas une relation, hein, donc une relation sexuelle non consentie. Alors, bon, on différencie selon qu'on a affaire à la victime et adulte ou enfant. Tout acte avec un enfant est considéré comme un viol. Donc, qu'il y ait un acte sexuel accompli ou pas. Donc, l'attentat aux mœurs à l'égard d'un mineur ou d'une mineure est souvent considéré comme un viol. Mm-hmm. Avec un adulte, c'est un peu plus complexe, hein, c'est un peu plus compliqué. On voit par exemple la législation occidentale qui a instauré le viol dans le couple. Donc, au sein d'un couple.
Même au sein des couples, on peut parler d'un viol.
On peut parler d'un viol. Donc,
lorsque la femme n'est pas consentante.
Elle n'est pas consentante, oui. Mm-hmm. Bon, si vous voulez, le viol fait partie de l'histoire. Hein, donc,
mais le viol, on peut dire que ça a toujours un caractère. Hein, il y a toujours la violence, il y a toujours un peu du forcing.
Tout à fait, il y a toujours ça. Mm-hmm. Et donc, comme je disais, ça fait partie de notre culture judéo-chrétienne. Si on pense à la famille de David, hein, donc on voit comment le viol a pu détruire sa famille. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose, comme vous avez dit dans le lancement, qui dévaste, qui perturbe, qui met du désordre dans la famille.
Mm-hmm. Voilà. Voilà. Mais d'abord, qu'est-ce qui pousse souvent les gens à commettre cet acte?
Si vous voulez, moi, je me suis intéressé quelques temps auparavant à la personnalité du violeur. Le violeur, c'est quelqu'un qui est, selon moi, un immature sexuel. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas accédé à la sexualité complète et totale et adulte, et qui considère l'autre, la personne autour d'elle, comme un objet plutôt qu'un sujet. Donc, c'est un objet sexuel pour lui, qui est à son service, et qu'il doit consommer. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la sphère de l'oralité, comme on appelle en psychologie, en psychanalyse. Donc, il est là pour consommer l'autre, qui est un objet apte à satisfaire ses désirs, ses besoins, ses envies, ses fantasmes. Donc, il ne tient pas compte du bon vouloir ou de la capacité de l'autre, du désir de l'autre. Donc, c'est quelqu'un qui vole à sa partenaire, à sa victime, son droit de désir et de...
Mmh. Et certains, depuis un moment, on dit que le viol est devenu une arme de guerre. Par exemple, à RDC, à l'est du pays, où il y a même des violeurs qui souffrent du sida, qui vont violer les femmes. On a entendu dernièrement qu'ils s'arrangent pour violer les femmes et leur transmettre la maladie.
Tout à fait. Bon, ces personnes-là, moi, je ne les classe pas dans la sphère de la sexologie pure. Donc, ce n'est pas des violeurs, mais plutôt des sadiques. Donc, eux, ce qui les pousse, c'est à anéantir l'autre. Hein. Donc, le viol devient l'arme de destruction massive. Donc, c'est pour dénaturer, c'est pour détruire l'autre. Donc, c'est pas pour avoir un désir sexuel. Parce que, bon, on a entendu certains de ces violeurs utiliser des bambous qu'ils introduisaient dans le sexe de la femme. Mm-hmm. Donc, on n'est plus dans l'ordre de plaisir sexuel à ce niveau-là. On est vraiment dans le fait de dénaturer l'autre. Parce que cette femme qui a son appareil génital complètement détruit est dénaturée. Elle n'est plus femme. Et qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle devient. Donc là, on est vraiment dans la sphère du sadisme, du criminel, mmh. Qu'il faut soigner autrement qu'au niveau de la sexologie.
Et dans un cadre purement familial ou dans son entourage, généralement, quelle est la catégorie des personnes qui tombent dans ce genre de choses?
Ah, mais c'est tout le monde, hein. Ça part des pères. On a entendu dernièrement en Autriche une jeune fille qui a été séquestrée pendant 28 ans par son propre père, mm-hmm. Qui l'a rendue mère. Donc, bon, dernièrement, on a entendu aux États-Unis. Bon, c'était pas dans la famille, mais c'était dans le voisinage. Cet homme qui avait séquestré trois jeunes femmes. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Comme je disais, c'est vraiment au niveau de la personnalité, hein, au niveau de ces gens qui sont tellement fragiles et qui sont incapables de séduire. Donc, ils ont vraiment un problème d'aller vers l'autre, un problème de communication, de discours. C'est l'acte, c'est la violence, c'est l'agressivité qui compte pour eux.
Voilà. Si, par exemple, ça arrive dans un cadre plus non familial,
oui.
Il y a un cas de viol, alors comment réagir lorsqu'on apprend qu'une telle chose s'est passée en famille?
Ah, mais c'est très compliqué. Hein. Je dis autant pour la victime que pour l'auteur. Parce que bon, la victime ne saura pas quoi dire, parce que bon, les juristes parlent alors à ce moment-là de, si vous voulez, si c'est le père qui commet le viol, c'est la circonstance aggravante, parce que l'enfant est dans une condition inférieure. Donc il ne peut pas dénoncer, il aura peur de salir l'honneur de la famille.
Mmh.
Et donc cette culpabilité qui est finalement malsaine, qui n'aide pas la personne à porter plainte, à s'exprimer, et voilà, qui est à la base de beaucoup de complications. Dernièrement, j'ai parlé avec un procureur ici, à Kinshasa, qui expliquait qu'à Kinshasa, en tout cas dans la législation congolaise, on peut porter, si vous voulez, la prescription, voilà. La prescription peut aller jusqu'à 10 ans, ce qui n'est pas bien pour un enfant, par exemple, qui est violé à 5 ans, ça veut dire qu'il a juste 15 ans pour porter plainte. Or, à 15 ans, on est encore mineur, on n'ose pas encore porter plainte. La législation occidentale considère que l'extinction de la peine commencera à partir de la majorité de la personne. Donc on donne l'occasion à la personne de grandir, de devenir autonome et éventuellement de pouvoir ne plus dépendre de la famille pour pouvoir porter plainte.
Alors généralement quand un viol arrive en famille, par exemple, c'est un enfant de 4 ou 5 ans qui est violé, oui. Souvent les violeurs viennent pour faire des menaces, mais il n'y a personne sinon.
Voilà.
Et l'enfant garde ça, et qu'est-ce que cela produit dans cet enfant toute sa vie?
Ah, mais beaucoup de... Bon, moi j'ai dans ma patientèle 40% de femmes qui ont été victimes de viols dans l'entourage proche. Et donc, elles développent des problèmes comme la frigidité, par exemple. Hein. Donc, il y a un trouble de désir. Et ces femmes se voient, en fait, vivre l'acte sexuel comme un lieu de violence et de déferlant d'agressivité à leur égard. Donc, elles sont complètement bloquées dans leur corps et dans leur cœur et dans leur vie affective et sentimentale. Donc, ça produit beaucoup de dégâts au niveau de la sexualité de la femme plus tard.
Bien. Comment réagir face à un viol dans sa famille ou dans son entourage immédiat? Nous avons déjà des auditeurs, en ligne, Omar Kigalo de Kinshasa et Patient Moulekaï de Kananga. Vous voulez également participer, composer le 081 890 63 94.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Comment réagir face à un viol en famille ou dans son entourage immédiat? Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Omar.
Merci beaucoup, Judy. Avant de donner ou de poser une question, je voudrais, en tant que juriste, dire à tout le monde que le viol, depuis 2006, a été trop étendu. Il ne se limite pas au simple fait de pénétrer quelqu'un sans son consentement, mais aujourd'hui même le simple fait de prendre un bide, de mettre dans tout orifice d'une femme ou d'un homme sans son consentement, et constituer les viols. Donc, les gens qui peuvent s'hasarder à croire que c'est seulement une pénétration sexuelle qui se trompe. Et deux, je voudrais un peu réajuster pour dire à l'invité au sein du couple, pour des gens qui sont légalement mariés, n'a pas de viol. Il existe plusieurs formes de violence conjugale, mais le mariage a comme conséquence la consommation du mariage. Donc, celui qui est marié ne peut pas violer sa propre femme. On parlerait de violence, mais pas de viol juridiquement parlant. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même au sein des familles, qu'il y ait, je dis, beaucoup de cas de viol? Premièrement, je sais que le mobile n'est pas opérant. Il faudra soulever l'habillement indécent de nos jeunes filles. Les gens devant lesquels vous passez ne sont pas des arbres, sont des gens que Dieu a créés et qui peuvent réagir naturellement. L'habillement indécent fait que, aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est quand même les causes qu'on a soulevées. Des deux, il y a l'inconscience des hommes que nous sommes, nous qui sommes les principaux violeurs. Le jour où nous allons considérer que ce sont nos sœurs et que c'est un péché même devant Dieu, je crois qu'on aura fait être utile. Alors, pour poser mes questions, je passe rapidement à mes réactions en tant que juriste. Il est demandé à toute personne violée d'abord de se faire tester pour savoir si on a été contaminé ou pas. Et deux, il faut dénoncer pour permettre à l'autorité de condamner la personne qui vous a violé, qu'il soit homme, parce qu'aujourd'hui l'homme aussi peut être violé, qu'il soit homme ou femme. Je pose ma première question, je dis, je connais un cas quand j'étais petit, il y avait un ami qui regardait un film pornographique avec sa propre sœur. L'ami était adulte, l'ami était mineur. Et il y a eu viol, la fille a même été enceinte. Si ce n'est pas dans de tels cas, comment peut-on réagir? Là, papa, pour éviter le drame, a fait voyager la fille et les garçons sont restés ici. On ne sait pas, l'enfant va l'appeler grand-père, on ne sait pas si l'enfant va appeler sa maman, tante, ou donc c'était un cas grave et ça barbé. Je veux savoir que les médecins ne disent pas que psychologue, comment gérer de tels cas. Deuxième cas, peu à son homme, il y a un professeur qui m'enseignait, professeur Kassonot, qui me disait, il y a des gens qui ont la manie de l'infraction séminaire sexuelle. Donc c'est-à-dire, oui. Même en prison, il peut toujours continuer à violer. Voilà pourquoi on disait il faut qu'il y ait des psychologues en prison, parce que le simple fait de mettre quelqu'un en prison ne l'aide pas. Même s'il sort, il va continuer à violer. Mais il y a des gens qui ont la manie. Comment traiter de tels cas de maladies psychologiques? Pour finir, j'ai invité à parler dans votre introduction de la réaction à tenir dans de tels cas.
Oui.
Si quelqu'un de votre entourage ou encore quelqu'un de votre famille vous a violé, sur le plan psychologique, quelle action poser ou quelle attitude tenir pour réparer ce préjudice? Voilà mes questions, ma préoccupation. Je vous remercie, Jody.
Merci, Omar. Passons au Moulekaï depuis le Canada. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui. J'ai entendu vous parler que la violence, c'est l'acte sexuel sans consentement de la femme. Mais moi, je voulais un peu énumérer les cas concernant la vie de Kananga où j'ai. C'est comme si on dirait que les gens ne savent pas comment définir le cas de viol. Le viol, pour eux, c'est. Admettons qu'une fille est déjà assassinée. Cela veut dire qu'elle cherche déjà les hommes pour qu'ils puissent pénétrer dans son vagin. Alors, une fois par exemple, les parents, ils attendent que non, la fille est en train d'être draguée par un tel garçon.
Oui.
Même si on ne retrouve pas en flagrance de lui, à ce moment-là, on déclare directement violence.
Oui, patience. Oui. Alors, tu vois, patience, s'il vous plaît. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment réagir face à un viol. C'est-à-dire que le viol est déjà arrivé en famille. Alors, quels sont généralement, quand ces cas arrivent à Kananga, quelles sont les différentes réactions dommage, on ne sait qui n'est plus en ligne. Gustave est également en Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le Kananga.
Quelle est votre question, Gustave?
Ah, moi, c'est le moi, personnellement, je développe le comportement classique de mon frère Ligou. Dans les espaces Ligou, il y a des gens-là qui veulent être experts en matière de viol. Et puis, je me demande comment ils disent. La deuxième question, c'est de savoir comment peut-on appeler la personne qui viole. Et la troisième question, quels sont les remèdes qu'on peut donner au confrère Ligou qui veille en désordre les biais. Merci.
Merci Gustave. Prince, vous êtes également à Kananga. Bonjour.
Merci, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais juste savoir pourquoi chaque fois qu'il y a un cas de viol, c'est souvent des garçons qui subissent toujours le problème, soit c'est l'arrestation, soit quoi qu'il en soit. J'aimerais savoir pourquoi ça.
Pourquoi on arrête toujours les garçons qui agissent?
Oui, ce sont des garçons qui sont souvent arrêtés et les garçons et les filles restent libres.
Merci Jean Lombard.
Oui, je voudrais commencer par Omar qui nous a parlé de cette attitude d'habillement des jeunes filles. Bon, c'est vrai que ça peut déranger, ça peut susciter le désir et l'envie. Mais bon, comme je disais, le viol a toujours fait partie de la société. Donc je ne pense pas que chez des Nordiques qui s'habillent en se couvrant le corps, il y aurait moins de viol. Je pense vraiment au niveau du corps de l'homme, de la tête plutôt de l'homme. Il n'est pas seulement attiré par le corps qu'il voit, mais le fantasme qui se fait dans sa tête.
Et alors, il nous dit que lorsqu'il y a un cas de viol arrive, comment réagir? D'abord, la fille doit se faire tester, et puis il faut aller engager des poursuites.
Oui, oui, les réparations. Oui, tout à fait. Je vais partir de sa troisième question, quant à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces violeurs-là. Parce que si vous voulez, en Belgique, moi j'ai travaillé en prison, donc avec des violeurs. Donc voilà, c'était vraiment le cadre de mon travail. Parce qu'on s'était posé la question, soigner la victime c'est bien, soigner le violeur c'est encore mieux. Parce que bon, comme disait Omar, le taux de récidive est très important.
Oui.
En Belgique par exemple, 40% des violeurs recommençaient, c'est-à-dire qu'ils violaient à nouveau après leur libération de prison dans les 2 ans qui suivent.
Donc c'était ça la question, de se dire, bon, si on essaie de soigner ces violeurs, il y aurait moins de récidives, donc il y aurait moins de viols.
Donc on peut dire que ces personnes sont déséquilibrées.
Voilà, c'est vraiment des déséquilibrés totalement. Pour répondre à la question de Gustave, justement, par rapport au remède, donc en Belgique où j'ai travaillé, on avait recours d'une part à la castration chimique, hein, donc on diminuait leur hormone d'agressivité, la testostérone, hein, donc c'est cette hormone qui est en excès chez eux, ils produisent facilement ça et ça les pousse à passer à l'acte. Donc on avait recours à la castration chimique, donc c'est vraiment un traitement médicamenteux accompagné à la thérapie. Hein, donc il fallait vraiment les deux pour arriver à un résultat, et j'insiste, le taux de réussite était de 30%. Donc ça veut dire sur 10 violeurs qu'on soignait, 3 seulement s'en sortaient, pour 7 c'était difficile. Donc pour vous montrer la tâche de l'ampleur, hein, donc avec tous les moyens dont on disposait en Occident, on n'arrivait quand même pas.
Mmh. Et on nous a donné un cas par exemple, un frère et sa soeur qui regardaient un film pornographique, et voilà, le garçon est passé à l'acte et puis ça a fait scandale. En famille, on était, le papa, les parents étaient obligés de faire voyager, je crois, la fille. Alors, comment réparer un tel cas?
Ah, mais c'est difficile, hein. Je pense que c'est vraiment, ça c'est des cas pour lesquels nous on pourrait intervenir, nous en tant que psychologues. Hein, donc c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que l'inceste a eu lieu. Hein, entre frères et sœurs. Parce que si vous voulez, on considère qu'il y a deux interdits fondamentaux qui sont reconnus dans l'univers, c'est l'interdit de l'inceste et l'interdit de meurtre. Et donc quand on bafoue cet interdit-là, c'est que quelque part dans l'éducation, dans le parcours, il y a une faille qu'il faudrait réparer au niveau de la thérapie.
Ouais. Donc on parle et du viol et de l'inceste.
Tout à fait, c'est vraiment les deux.
Voilà. Et passons des Kananga, du sang, qui nous dit que les gens à Ibebo, il y a beaucoup de violeurs à Ibebo. Qu'est-ce que vous pouvez dire c'est ce qu'il nous dit à ces gens-là, et comment appeler celui qui viole?
Ah, mais comme je disais, ce qui se passe à l'est de notre pays, ce n'est pas des violeurs pour moi, ce sont des criminels sadiques. Hein, donc c'est vraiment, c'est des gens qui ont l'intention de nuire à l'autre. Là, on n'est plus dans la sphère du désir ni du plaisir sexuel. Et bon, quant à celui qui viole pour le but sexuel, c'est un pervers. Pour moi, c'est vraiment là. Le viol fait partie des perversions sexuelles. Comme je disais, ce sont des immatures sexuelles qui n'ont pas accédé au stade de considérer l'autre comme leur égal. Hein, donc ils considèrent l'autre comme un objet sexuel à leur disposition.
Et ceux qui sont à Ibebo, c'est au centre du pays, ils ne sont pas à l'est. Comment expliquer ça?
Ah oui.
Il y a des cas de viol là-bas, ou des cas de viol.
Mais c'est étonnant, hein. Vous savez, en France par exemple, le nord de la France, donc vers Lille, c'est un concentré de pédophiles. Et on n'a jamais compris pourquoi géographiquement il y avait beaucoup plus de pédophiles à Lille, donc au nord de la France, que partout ailleurs. Donc parfois il y a des phénomènes comme ça qui se passent, on ne sait pas bien comprendre. Donc en tout cas on n'a jamais su apporter de réponse. Donc je suis incapable de dire pourquoi il est beau, il y aurait plus de violeurs qu'ailleurs.
Et Prince, les Canadiens, quand il y a un cas de viol, c'est souvent les garçons qui sont arrêtés. On laisse les filles, pourquoi il veut comprendre.
Le viol de la femme à l'égard de l'homme est toujours subtil et très compliqué à prouver. Parce que la femme, si vous voulez, va utiliser l'arme de séduction. Donc elle va séduire, elle va manipuler jusqu'à arriver à l'acte. Donc c'est une violence psychique qu'elle va instaurer dans la relation. Alors que l'homme a recours à la violence, à l'agressivité physique dans le viol. Donc c'est rare que quand une femme viole un homme, qu'on voit des traces physiques de blessures et ainsi de suite. Alors que chez la femme, c'est souvent le cas. Et donc c'est ça qui va faire qu'on pourrait, bon je veux dire, si on va porter plainte et qu'on va faire l'état des lieux de ce qui s'est passé au niveau du corps, chez l'homme on verra rien. Alors que chez la femme, on pourrait voir des déchirures, des traces au niveau, à cause du forçage justement de l'acte.
Rolly Conga et Tadjemena et Albert Mwananga à Kananga, vous voulez également participer, appelez-nous 081-890-6394.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tout ce qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Comment réagir face à un viol dans son entourage immédiat? Rolly Conga de Gemena, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, on vous écoute un peu. Là, c'est la ligne, la liaison était entrecoupée. Je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu, peut-être que ça peut s'améliorer et poser rapidement votre question, Rolly.
Oui, j'ai trois questions à poser à l'air. Oui, la première est la suivante. Quand une mère a fait un mineur de 14 ans, la peine applicable est combien?
Qui viole un mineur?
Un mineur de 14 ans.
Qui a violé un mineur de 14 ans?
Une mère de 45 ans.
Une mère de 45 ans.
Oui, la peine applicable est combien? Oui, la deuxième question. Est-ce que ça peut assurer
bon, Rolly, la ligne n'est pas très bonne. Rolly, essayez de nous rappeler plus tard. Albert Mwananga, Itakanana, bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis bonjour à notre invité.
Alors, le thème d'aujourd'hui, comment réagir face à un viol dans son entourage immédiat? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai quelques préoccupations de ces journalistes par rapport à notre
thème. C'est
très intéressant, monsieur le journaliste. Oui, vous connaissez vous-même qu'avec le monde actuel, toutes les jeunes filles et les jeunes garçons des téléphones avec des cartes mémoire remplies des histoires là, on ne sait pas vraiment ce qui est là. À ce niveau, même la DIMA, monsieur le journaliste, vous savez que ça fait des rages. Ça, c'est le problème. Alors, à ce niveau-là, j'aimerais tout simplement dire par là que lorsqu'il y a un consentement des conjoints, une fille de 14 ans ou de 15 ans, un garçon peut-être de 18 ans ou de 20 ans. À ce moment-là, lorsqu'il y a un consentement, la fille est d'accord et le garçon aussi est pour...
Albert, le thème d'aujourd'hui s'intéresse, le viol a déjà eu lieu. Maintenant, après, comment réagir, c'est ça. On est vraiment après le viol, pas avant. On veut savoir sur quelle réaction arrive et comment gérer ça.
Oui, en fait, c'est là où je vais poser ma question de terrain qu'à ce niveau.
Bien, merci.
Vous m'entendez là?
Oui, on a compris votre question, merci. Alors, Jean Lumbala, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs? Oh, mais. Je pense la question par rapport à la peine, ça il faut demander au juriste.
Le juriste, bien sûr, c'est pas notre. Ça fait pas l'objet de notre thème aujourd'hui.
Et de savoir si quelqu'un de 18 ans, un homme de 18 ans peut vivre comme de 45 ans, ben oui, bien sûr.
On y parle d'une mère de 45 ans qui est drôle.
Oui, donc ça c'est. Bon, pour moi je ne vois pas, enfin c'est pas le viol. Je veux dire, oui, il y a viol, mais bon, il faudrait voir maintenant comment réagir, comment cette mère-là est pu en arriver là. Bon, il y a eu d'autres cas aussi, hein. On a vu souvent en Occident des professeurs, donc des femmes qui avaient couché avec leurs élèves mineurs, donc ça arrive, bon ça c'est plutôt, moi je peux dire c'est la sphère du fantasme qui se passe à ce moment-là. Hein, donc souvent ces mères qui se considèrent, bon, comme on appelle des cougars, ou à l'époque de l'Ouambou on appelait des mamans qui allaient avec des plus jeunes, ce sont des mères qui sont restées quelque part dans leur fantasme. Ce sont souvent des adultes qui n'ont pas vécu leur vie de jeunesse, qui n'ont pas vécu leur jeunesse, et qui se réveillent quelque part à des adultes avec des fantasmes de jeunesse.
Mais est-ce qu'on peut parler de viol à ce moment-là?
Oui, c'est un viol. Hein. La loi considère ça comme un viol. Comme je disais tout à l'heure, quand la femme viole, c'est souvent du côté de la manipulation et de la séduction un peu perverse, un peu déplacée. Donc oui, il s'agit d'un viol.
Et comment réagir quand une telle chose arrive? Faut-il faire arrêter cette femme? Est-ce qu'il faut... Il y a parfois une réaction violente, on veut tabasser, on appelle la police. Alors, comment réagir?
Oui, l'arrestation, oui. Je pense, bon, dans notre pays, on devrait, je ne sais pas, je fais appel aux juristes, aux autorités, pour voir un petit peu s'il n'y a pas moyen d'instaurer quelque chose de plus structuré. Un lieu d'écoute, d'accueil pour des violeurs, mais aussi...
des psychologues où les gens peuvent aller.
Voilà, où on peut aller. Parce que comme je disais, c'est difficile de déclarer un viol. Aller dans un commissariat, c'est très violent pour la personne qui vient d'être violée. Alors que si on a instauré un espace qui peut faire partie, par exemple, d'un hôpital ou d'un lieu qui soit
intime et qui soit où les personnes sont victimes sont protégées quelque part, qui sont dans l'anonymat, ça aidera beaucoup à renforcer, à éviter, en tout cas à pousser les personnes à parler pour que les choses n'interdisent pas et qu'on ne retrouve pas toutes ces pathologies sexologiques, comme je disais, hein, des troubles qui vont se retrouver au
milieu. Là, il faut amener seulement la victime ou les violeurs aussi.
Les deux. Moi, je pense qu'il y a vraiment place pour les deux, parce que personnellement, moi, je travaille avec les deux, autant les violeurs que les victimes. Bon, c'est difficile à mettre en place ni à concevoir, mais c'est efficace. Donc, on doit vraiment soigner les deux.
Mais on ne va pas les amener dans un même centre.
Non, pas du tout.
Ils ne seront pas écoutés le même jour.
Non, pas le même jour. On va séparer, mais si vous voulez, la plateforme pourrait être la même. On part d'une même logique, mais avec des endroits, des lieux, parce qu'il faut un cadre aussi spécifique. Hein. Parce que quand on écoute un violeur, un auteur de viol, on est moins dans l'empathie, on est plutôt dans l'antipathie. Mmh. Et donc, il faudrait travailler ça à l'avance pour pouvoir être efficace dans son travail.
Oui. Fred, et Mbassi et Jacques Ando, les Bounia. Fred, bonjour.
Bonjour.
Comment réagir face à un viol? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
J'ai déjà vu une préoccupation.
Oui.
Oui, savoir un peu si vous avez déjà enregistré des cas de viol des filles envers les garçons ou des femmes envers les hommes. Je voulais savoir si ça existe aussi, c'est aussi pour des hommes.
Merci. Jacques Tando, les Démonia, bonjour.
Bonjour, oui, bonjour à la Tocapi.
On vous écoute.
Oui, ma question est la suivante. En cas où les frères et la fille sont tous dans une même maison, après les viols, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les séparer ou les laisser ensemble?
Merci, monsieur Jean Lumbala. Effectivement, il faut les séparer. Hein. Bon, parce que quand le viol arrive comme ça entre frères et sœurs, donc l'inceste dont on parlait, c'est souvent un problème de promiscuité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu intime séparé pour l'un et l'autre. Et puis, bon, on sait comment à l'adolescence, on est habité par des pulsions, par des envies. À titre d'illustration, un adolescent, bon, je cite les chiffres occidentaux, hein, un adolescent pense au sexe 300 fois par jour. Alors vous imaginez
un adolescent,
hein, donc c'est 300 fois par jour auquel il pense à la chose. Alors vous imaginez qu'il suffit qu'il y ait une sœur qui passe, qui se trimballe, ou ils dorment ensemble, ou quand ils se douchent, ils se voient, ou des choses comme ça. Ça devient un terrain favorable.
Ça devient
un terrain favorable.
Et si par exemple c'est dans une parcelle où il y a plusieurs ménages, le voisin qui va violer l'enfant de l'autre, comment réagir? Faut l'arrêter, le battre à ce moment-là? On fait appel à la police?
Tout de suite. Hein. Moi je pense que la réaction à avoir face au violeur, parce qu'il faut le mettre tout de suite face à ses responsabilités, et l'arrestation est un moyen de lui dire voilà mon gars, tu as été trop loin dans tes actes. Donc l'arrestation, taper. Bon, ça ne va pas aider, hein. Je pense que ça n'apportera pas de solution, mais l'arrestation, oui. Hein, le fait de l'emmener devant, de le mettre face aux autorités et la loi, ça va être.
Et pour la fille qui violait, vous avez dit par exemple pour les frères, entre frères et sœurs, il faut les séparer.
Il faut séparer, oui. Vraiment, il faut séparer. Bon,
mais est-ce que ça suffit? On s'arrête là ou non?
Il faut aller au-delà. Le travail commence là, on va séparer. Parce que bon, il faudrait mettre les mots. Hein. Bon, moi personnellement, je me suis occupé d'une femme comme ça qui a été violée par son demi-frère. Et le problème, c'est que cette femme, bon, elle est âgée d'une trentaine d'années, n'arrive plus à se marier. Donc, elle est bloquée, elle est restée à l'image de cet homme qu'elle a tellement idéalisé, son frère, et qui finalement, elle ne sait plus s'ouvrir à d'autres hommes. Et le travail pour moi a été de l'emmener tout doucement à prendre conscience de cela. Que c'est un interdit. Bon, on sait que l'interdit attire, mais bon, il faut passer à autre chose. Et il faut s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres perspectives.
Est-ce que vous avez pu l'amener à s'ouvrir?
Oui, je pense qu'on
elle est traumatisée.
Oui, elle est traumatisée par ça, parce que bon, si vous voulez, tomber amoureux de son frère, il n'y a rien de pire. Bon, on aime nos frères et sœurs, hein, on sait qu'on a, c'est un amour fraternel de sang, donc c'est plus fort peut-être que l'amour relationnel comme ça, parce que bon, on peut quitter son mari, mais rarement son frère. Et donc c'est là que le travail va être très intense. Donc de vraiment conscientiser la personne que, bon, voilà, c'est... Entre les consanguins, bon, il y a des conséquences dramatiques aussi au niveau des enfants qui ont des maladies héréditaires comme ça, graves. Mmh.
Donc on retient que lorsqu'il y a un jour la rive dans la famille, il faut d'abord séparer les deux, et puis il faut aller voir des psychologues qui vont les prendre en charge.
Tout à fait. Oui. C'est vraiment notre travail, et je pense que c'est là qu'on peut être vraiment efficace pour aider les autorités, hein. Je dis les juristes, je pense qu'ils ont besoin de nous aussi pour voir, parce que bon, il ne suffit pas...
Généralement, il y a un silence, hein. oui. qui entourent le viol en oui. famille, par exemple, les gens n'en parlent pas.
Tout à fait. C'est là que nous, on peut entrer en acte, hein. C'est là que nous, on peut mettre les mots sur ce silence, où on peut ouvrir la brèche pour que les mots sortent. Et que je pense que le travail va être efficace aussi pour les juristes et les autorités, la police et tout ça.
Voilà. Votre numéro, M. Jean, là, vous avez un cabinet, vous êtes clinicien, psychologue et sexologue. Peut-être que les gens ont beaucoup de problèmes et vous reviendrez à vous en parler après cette émission. Oui. On peut vous joindre à quel numéro?
Alors, je suis situé à la 11e rue du Métier, là où est mon cabinet. Mon numéro de téléphone, c'est le 082 07 03 960.
082-07-03-960. Oui. Jean Lumba, la psychologue, clinicien et sexologue.
Merci. Merci, je vous dis à chaque fois.